Qui compte pour un acteur, c'est la personnalité, sa présence.
Franchement, ma chère, c'est le cadet de mes soucis.
Je m'appelle Berlin Noël et j'aime bien les yens.
Come on, guy. Who'll be sweet with me?
C'est tellement intéressant de voir la réaction des spectateurs à qui on peut déplaire. J'aime bien frôler les catastrophes.
Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
On a tout vu.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
Partir dans un monde confiné, c'est le plus grand des fantasmes. Fuir, changer de vie, se retrouver ou se perdre. Le cinéma a donné un nom et même un genre à cette révolution intérieure, à ce voyage, le road movie. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
L'aventure, les obstacles, les rencontres, l'issue fatale ou non, quel meilleur guide que le cinéma pour tracer la route. Bonjour Antoine Debecq.
Bonjour.
Historien, critique et marcheur. Sur la multitude de films proposés avec nous, nous en avons choisi 7, une liste totalement subjective, des images prégnantes de femmes et d'hommes en liberté, dans un rejet d'un système ou la fuite d'un morne quotidien. Enfin, et comme les salles de cinéma restent désespérément fermées, des idées, beaucoup d'idées pour s'évader en images et sur d'autres écrans. Et pour ouvrir cette heure, cette question, comment tourner un film en plein confinement? Bonjour Pierre Salvadori.
Bonjour.
Oui, vous terminez dans une semaine le tournage de votre nouveau film, le 10e, La Petite Bande, l'histoire de garçons de 12 ans qui kidnappent un adulte. Premier film avec des enfants, Pierre, et premier film sous Covid.
Deux catastrophes simultanées.
Oui, c'est ça, j'allais dire double peine, oui.
Non, c'était une expérience extraordinaire avec les enfants.
Ouais.
Et un peu moins marrante avec les masques. Ouais, ouais.
C'est-à-dire, comment ça se passe alors? Le quotidien d'un tournage avec des masques, distanciation, etc.
Je dirais que c'est exactement le même que pour tout le monde, c'est-à-dire que c'est une gêne physique, respiratoire, on finit par avoir mal au crâne, parce qu'on respire son propre oxygène.
Ouais.
Mais à part ça, c'est rien. C'est-à-dire que moi, je veux pas dramatiser tout ça. Les gens portent les masques, sont très responsables. On est vraiment passé, entre les gouttes, il n'y a pas eu de cas. Il y a eu quelques cas contacts. On s'arrête tout de suite dans ces cas-là. Quand quelqu'un est cas contact, il est assez responsable, il appelle et il revient pas sur le plateau. Et c'est comme ça qu'on a réussi à tourner et à tenir pendant un très long temps de tournage. J'ai commencé début août.
Oui.
Voilà, c'est comme ça qu'on a tenu, si vous voulez. Et puis, on gagne un peu de temps le matin, plus personne se fait la bise. C'est pas mal, ça, parce que franchement, c'est très long, ça, le matin, quand il y a des grosses équipes.
Mais il y a une scène baiser Covid.
Oui, il y a une scène, vous savez, souvent, quand on tourne un film, on dit, il reste la scène voiture ceci. Il y a toujours des appellations un peu marrantes.
Ouais.
Et il y avait la scène du baiser Covid, parce que les enfants, comme ça mute, ils voulaient faire quelque chose au départ, et puis tout à coup, ils deviennent kidnappeurs sans vraiment le vouloir. Et ensuite, il y a toute une réflexion autour de ça, de la transgression, est-ce qu'on peut ou pas, etc. Ils sont masqués, ils se sont fabriqués des petits masques avec des trucs de la forêt, des fougères, des machins, voilà. Et à un moment, il y a une petite jeune fille qui est une gamine qui s'appelle Kat, qui est amoureuse d'un garçon, et elle a son masque, elle lui vole un baiser comme ça, elle a son masque, elle l'embrasse. Voilà, on appelait ça la scène du baiser Covid, et j'adore cette scène d'ailleurs.
Et sinon, pour diriger les enfants, s'il faut être un peu tactile aussi, les encourager, ça doit manquer,
pas
ça,
trop,
non?
Mais
non, pas trop, bien sûr.
Mais non, bien sûr qu'il faut les. C'est ça qui est pour ça, parce que moi j'ai adoré, et je sais pas finir, j'ai adoré cette expérience vraiment. Mais c'est surtout donner de l'énergie. Je me suis rendu compte que dès le premier jour, quand j'ai commencé à jouer la scène, et ils jouaient très en dessous, et ils pensaient que c'était fini, qu'on faisait pas des raccords dans l'axe, si j'avais jamais tourné ou pas dans l'axe, et des plans plus serrés. Donc ils m'ont regardé quand j'ai dit personne ne les avait prévenus, quand j'ai dit on l'a refait, comme si j'étais un malade mental. Pour eux, c'était fait. Alors que c'était nul. Donc, si vous voulez, j'ai compris qu'il allait falloir y aller et donner énormément d'énergie. Donc, je jouais chaque rôle, chaque scène, chaque prise avec beaucoup, beaucoup d'intensité. Et s'il y en a un qui me merdait un peu avec le masque, c'était moi, parce qu'à un moment, vous êtes tellement épuisé, vous le relevez, vous oubliez de le remettre. Enfin, on fait à l'envers, on s'approche, on enlève le masque, on s'éloigne, on le remet. Moi, le réalisateur et les acteurs sont un peu moins... Alors, les acteurs, ils l'ont avant, ils l'enlèvent pendant la prise, parce qu'il y a un déni total de réalité pour l'instant dans la fiction.
Oui.
Mais et puis, voilà, tous les autres étaient très, très rigoureux. C'est peut-être moi qui l'étais un peu moins de temps en temps, parce qu'on oublie, j'étais tout le temps dans cette énergie-là, comme ça, à essayer d'insuffler de la force et, ouais, de la puissance aux enfants.
Et enfin, Pierre Salvadori, puisque c'est notre thème ce matin, quand je vous dis un film qui évoque tout de suite pour vous l'idée de partir, prendre la route pour une autre vie, qu'est-ce que vous me répondez?
J'ai pensé à Something Wild directement de Jonathan Demme, qui est un réalisateur que j'aime énormément.
Dangereux sous ton rapport en français. Ouais.
Dangereux sous ton rapport, qui est un titre moins joli en français.
Ouais, ouais.
Alors je sais pas, parce que je savais pas trop quel était le thème. On va parler de la route, et c'est intéressant. C'est un personnage merveilleux qui est joué par Mélanie Griffith, qui est à moitié folle, hein, qui est une espèce de mythomane un peu dingue, et qui embarque avec elle, Jeff Daniels.
Ouais.
Et puis c'est souvent le cas avec des road movies, c'est comment des gens vont se révéler, hein. Elle agit comme un révélateur, mais presque au sens photographique. Elle le transforme, ce personnage, alors qu'elle-même, elle se dissimule. Lui, il va aller vers la vérité. Et elle, on s'aperçoit qu'elle joue un rôle, ou plusieurs rôles, qu'elle n'est pas vraiment elle-même. C'est un film très musical, comme souvent les films de Jonathan Demme.
Ouais.
Ça va souvent avec la route, la musique. Moi, je sais pas pourquoi, ça m'a fait penser aussi tout de suite à le sujet, à ce film-là.
Merci, Pierre. On va pas donner de date de sortie pour La Petite Bande. Merci beaucoup. Un autre couple de cinéma, Enfuite, une aventure dangereuse, en bleu, en rouge et en jaune. Pierre Aulfou, c'est votre premier choix, Antoine Debecq. Et cette BO, Jamais je ne t'ai dit que je t'aimerais toujours, Anna Karina.
Je vois que j'avais raison.
Quoi?
Tu ne croyais pas quand je te disais qu'on s'aimerait toujours?
Non. Jamais je ne t'ai dit que je t'aimerais toujours. Oh mon amour, jamais tu m'as promis de m'adorer. Jamais nous n'avons échangé de tels serments, me connaissant, te connaissant. Jamais nous n'aurions cru être à jamais pris par l'amour, nous qui étions si inconstants. Pourtant, tout doucement, sans qu'entre nous rien ne soit dit, petit à petit. Des sentiments se sont glissés entre nos corps qui se plaisaient à se mêler. Et puis des mots d'amour sont venus sur nos lèvres nues, petit à petit. Des tas de mots d'amour se sont mêlés tout doucement à nos baisers. Combien de mots d'amour? Jamais je n'aurais cru que tu me plairais toujours. Oh mon amour, jamais nous n'aurions pensé pouvoir vivre ensemble sans nous lasser. Nous réveiller tous les matins aussi surpris de nous trouver si bien dans le même lit. De ne désirer rien de plus que ce si quotidien plaisir d'être ensemble aussi bien. Pourtant, tout doucement, sans qu'entre nous rien ne soit dit, petit à petit, nos sentiments nous ont liés, bien malgré nous, sans y penser à tout jamais. Des sentiments plus forts que tous les mots d'amour connus et inconnus. Des sentiments si fous et si violents, des sentiments auxquels avant nous n'aurions jamais cru.
Antoine Debecq, parmi tous ces récits d'évasion au cinéma, ce film, c'est votre choix, premier choix comme une évidence, et Pierre Aulfou, Jean-Luc Godard, auquel vous avez consacré, il faut le rappeler, une super biographie.
La référence.
La fuite de ce Ferdinand Griffon, avec elle, Anna Karina. Pourquoi cette évidence de film et de choix?
Parce que je pense que c'est pour moi peut-être le plus beau film de la fuite comme et puis de l'idée de qu'on va réinventer sa vie, quoi, qu'on va expérimenter quelque chose. On est deux, on part avec une grosse voiture américaine vers le sud, on fuit la société de consommation, où les gens, le film s'ouvre par une soirée où on entend les gens parler en phrases publicitaires, en slogans, et puis on fuit pour retrouver à la fois, pour trouver un amour, Marianne Renoir, et puis aussi pour expérimenter sa vie. Voilà, on est désœuvré, c'est ça qui est beau dans Pierre Aulfou, c'est que elle le dit, hein, je sais pas quoi faire. Et voilà, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que le cinéma peut vous permettre de faire, quoi. Et ça, c'est je trouve que oser un film sur ça, sur le vide, quoi. Je sais pas quoi faire, et que le cinéma à lui seul ait le pouvoir de remplir le vide, oui, qui est laissé par en soi, il me semble que c'est ce que le cinéma peut porter de plus fort, quoi.
Il faut rappeler que Belmondo dans À bout de souffle taille aussi la route au début du film.
Absolument, c'est aussi un road movie, c'est-à-dire que oui. Godard adore le cinéma américain, oui, il a vu tous ses films, et il est, en ce sens, à la fois il reprend ça et il va carrément forger un genre, parce que le road movie c'est vraiment un genre plutôt des années 70,
oui,
il y en a encore très très peu, oui, en fait, et grâce à Pierrot le Fou, il refonde, oui, le cinéma, et c'est ça aussi, c'est la puissance que le cinéma peut avoir à se renouveler, se réinventer, et à partir de quasiment rien, et c'est ça que Godard invente dans Pierrot le Fou, avec ces trouvailles incessantes, cette manière de passer d'un genre à un autre, avec la comédie musicale qui arrive, oui, tout d'un coup, avec le film de gangster, avec le film rimbaldien, comme ça, où on se détruit à la fin. Il y a aussi quelque chose de très nihiliste dans le film, hein. C'est Pierrot le Fou, hein. Et ce qui est beau aussi, c'est tout ce que ça va produire. C'est-à-dire que c'est un film, il y a peut-être ils sont très rares, en tout cas, les films qui vont déterminer autant de vocations de cinéastes. Hein. Beaucoup de cinéastes qui, de la génération qui suivent, ont dit combien Pierrot le Fou, c'était en voyant ce film que ils avaient, oui, eu la vocation qu'ils voulaient faire du cinéma. Et donc voilà, c'est et le cinéma, c'est quand même aussi ça, c'est-à-dire quelque chose qui est complètement accroché à la réalité, voilà, qui part de petits détails de la vie, et qui en même temps permet une forme de fuite vers ailleurs, et qui est vraiment au cœur de Pierrot le Fou. C'est pour ça que je l'ai choisi.
À mon avis, Jean-Luc Godard ne va pas être loin dans la tête d'un autre cinéaste qui s'appelle Gus Van Sant. C'est votre deuxième choix, c'est Jerry. Deux amis, Jerry et Jerry, Casey Affleck et Matt Damon, traversent en voiture le désert californien et décident de terminer leur périple à pied. Sans eau ni nourriture, ils vont s'enfoncer très profondément dans la vallée de la mort, sous un soleil de plomb.
Hey, you're not really that bad. Not really, it's just really hot on my front and really cold on my back.
But it kind of bent a little.
It wasn't really to the right. It was to the right, and then it was kind of down a little bit, and then it was kind of back up, so maybe it was to the right.
So call it north-northwest.
So you go to the next one, I'll go to the next one. If you don't find anything, we meet back right there.
Oui, le son de la marche au cinéma, c'est très beau. Alors, il n'y a pas beaucoup de dialogue, pas de narration, pas de psychologie, mais plein de sensations et de non-dits dans Jerry.
Oui, c'est deux hommes qui marchent. Ouais. Voilà, c'est un film.
Je parle aux marcheurs que vous êtes.
Je crois que c'est un film. C'est assez rare d'avoir un film aussi culotté. Hein,
oui.
Je veux dire, voilà, l'idée de faire un film sur deux jeunes gens qui se perdent. Donc on à la fois on est dans la nature, on y est complètement voilà immergé, et en même temps on ne reconnaît rien,
ouais,
tout se brouille, on est dans une sorte de désert complètement sauvage où on n'a aucun repère, et la seule chose sur laquelle on peut compter c'est ces deux jeunes gens qui vont se mettre à aller marcher à la fois pour se sauver, parce qu'ils savent que s'ils restent sur place,
ils meurent,
et en même temps pour mourir aussi, ouais. Parce que ils savent qu'à la fin de la marche, il y aura sans doute quelque chose qui est la mort. Mais c'est et tout le film se compose sur ce rythme-là, et donc il y a quelque chose qui est une forme de fuite absolue, et en même temps de retrouver. C'est un film qui est complètement hypnotique, où on a l'impression de rentrer en soi-même.
Où le temps est dilaté.
Voilà. Ouais. Et la musique d'Arvo Pärt est absolument sublime. Ouais. Et justement, elle donne ce sentiment-là, c'est-à-dire cette sensation à la fois d'une endurance, d'une douleur, d'une souffrance, et en même temps, voilà, il y a un côté tellement planant qu'on s'élève, qu'on vole presque avec la caméra de Gus Van Sant et les deux marcheurs Casey Affleck et Matt Damon. En plus, dans le côté expérience, voilà, on fait une expérience. Mmh. Il y a toujours ce côté, et ça qui est intéressant, on fait le film ensemble. Et c'est ça que je trouve beau dans ces films de départ, comme ouais. ça. C'est que c'est une expérience qu'on vit. Alors là, Gus Van Sant, Casey Affleck et Matt Damon ont tout écrit ensemble, on pensait le film ensemble, on tournait ensemble, on souffert ensemble. Et il y a ce côté, une communauté qui se crée à travers l'expérience.
Alors c'est fou parce que l'exemple auquel on va arriver maintenant, là, c'est pareil. Ce sont quatre garçons qui ont écrit ensemble. C'est un film français, c'est Le Plein de Super d'Alain Cavalier. Étienne Chico, Xavier Saint-Macary, Patrick Bouchitet, Bernard Crombet. Ils sortaient tous les deux du cours Simon, je crois, et ils ont écrit avec Cavalier cette histoire, Le Plein de Super. C'est un garçon qui doit livrer une Chevrolet dans le sud de la France, qui invite son pote Philippe à l'accompagner. De Lille à Cannes, ils prennent en autostop un personnage incarné par Étienne Chico, c'est le Boulet, rejoint par son pote Daniel Bouchitet. On va écouter un petit extrait de ce film.
T'as pas de gosse, toi ?
Moi ?
Ouais.
Non.
T'aimes pas les gosses, toi ?
Je les aime, mais je peux pas en avoir.
T'as les trempes bouchées ?
Je me suis fait faire un spermogramme et je suis fait con à 0%. Alors j'aurai jamais d'enfant.
Allez, montre-les les photos de ton gosse, t'en meurs d'envie.
Pas du tout.
T'es con, toi.
Bon, d'accord, vous assistez, les gars. Je vais vous montrer les photos de mon fils. C'est pas un boudin. Tiens.
Tiens, Clou.
Je la connais pas, celle-là, les nouvelles ?
Oui.
Antoine Debecq, Le Plein de Super, c'est un peu quatre garçons paumés qui savent pas s'y prendre, ni avec les femmes, ni avec la vie.
Oui, c'est là on retrouve quelque chose comme le désœuvrement. C'est quatre qui n'ont rien à faire en fait et ils font rien. C'est ça. Mais c'est ça qui
ils roulent.
Voilà, c'est ça qui enclenche le film. C'est-à-dire, oui. Tout d'un coup, la vie est vide et le cinéma la remplit, quoi. Et là, le cinéma, alors, c'est ça qui est très beau dans le film de Cavalier, c'est que c'est vraiment une expérience. C'est-à-dire que, ils ont tout écrit ensemble, oui. et ils partent, ils savent vraiment pas où ils vont.
Et ils suivent le déroulement du film avec la voiture.
Ils suivent le déroulement du film. Il y a un côté très improvisé dans le film qui est apporté aussi par, deux comédiens en état de grâce quand même que sont Étienne Chico et Patrick Bouchitet. Ouais. Il y a quelque chose. Chico est absolument génial dans le Plein de Super, dans ce rôle un peu de dandy comme ça, déluré. Et puis bon, ils font à la fois n'importe quoi et en même temps, à chaque fois, ça leur permet d'aller très très profond en eux-mêmes. Bon, on a entendu
l'illustration, voilà,
par exemple.
Ouais.
C'est des choses qui ont l'air de détails, de choses totalement ordinaires. Et en même temps, voilà, c'est la vie dans ce qu'elle peut avoir de plus essentiel, de plus à la fois de plus éphémère et de plus voilà, si on vit pas ce genre de choses, ben on vit pas en fait. Et le cinéma et c'est ça qui est quand même très très beau. On a l'impression qu'il est fait pour ça, fait pour capter ces moments-là qui ont été complètement on a cette impression, improvisée ouais. au fur et à mesure du voyage.
Et ce qui est beau, c'est que ce film aussi est le point de départ pour Alain Cavalli d'un autre cinéma qui sera complètement défait de ses artifices. En fait, c'est un cinéaste qui renaît avec ce film.
Voilà, il y a cette renaissance et en même temps, c'est un cinéaste irrécupérable. C'est-à-dire, il fait ce qu'il veut.
Il aimerait bien ce terme, je pense.
Il fait ce qu'il veut. Ouais. Et c'est vrai qu'il se donne avec le plein de Schubert cette sorte de luxe incroyable, d'une totale liberté, ouais. quoi. Et c'est vrai que, après, assumer ça dans un monde du cinéma qui est au contraire régi par des plans de tournage, l'argent, les responsabilités, entre guillemets, que doit avoir un cinéaste qui mène une équipe de 50, 60 personnes. Cavalier, il décide d'envoyer tout ça en l'air pour faire son cinéma. Ouais. Donc, il va tourner beaucoup tout seul, mais en même temps, il le fait avec un cran, une audace et une liberté qui est absolument incroyable et qui vient effectivement de cette expérience-là du plein de super.
Et elle aussi a beaucoup travaillé sur à la fois la fiction et le documentaire, ça s'appelle un documenteur. C'est un choix assez radical de votre part, d'ailleurs c'est sans toi ni loi. D'Agnès Varda, Mona, les deux derniers mois de son errant jusqu'à l'issue fatale, elle a marché jusqu'au bout de ses forces. On va écouter un extrait de sa rencontre avec un berger.
Tu te balades seul ? Tu souffres pas trop de la solitude ?
Seul, c'est bien.
J'ai passé des Noëls seul. Le 25 décembre, je voyais se baffrer. Moi, j'étais seul.
Mais quand il fait froid, c'est bien. Il n'y a pas trop de monde sur les routes. On trouve du stock plus facilement.
Ça dépend de la gentillesse de l'homme qui te prend ou qui te prend pas. Puis voilà, s'il te prend, tant mieux. Et s'il t'ennuie pas encore, encore mieux.
Je m'en fous, je bouge.
Peut-être que tu es plus libre que moi. Tant mieux pour toi. Je choisis un milieu. Un moyen terme entre la solitude et la liberté.
Moi, on m'a emmerdé pas mal de temps. Maintenant, c'est fini.
Toi, c'est la liberté totale. Tu choisis, mais tu as la solitude totale. Il vient un moment où, si on continue, je pense, on se détruit. On va à la destruction. Et si on veut vivre, on arrête. D'ailleurs, tous mes amis qui ont fait la route et qui ont continué sont morts. Ou sont devenus des loques, alcooliques ou drogués. En général, parce que la solitude les a bouffés complètement.
Sacré anti-performance de Sandrine Bonnaire qui avait 18 ans à l'époque. Et comme dit Agnès Varda, sans jamais dire qui elle est ni pourquoi elle voyage. Ça, c'est fort quand même, hein, dans cette fuite.
Ouais, c'est l'espèce de mystère comme ça qu'on entend, hein, dans ce qu'elle dit. Elle veut être seule, elle veut. Et en même temps. On sait tous que la solitude, comme le dit le berger, ça mène à la mort. Ça détruit. On peut pas. Et c'est vrai que dans Sans toi ni loi, il y a quelque chose de très râpeux comme ça, qui est la manière de se cogner contre la réalité, contre ce monde qui est à la fois extrêmement dur, sauvage, et ça se voit dans la nature, hein, c'est souvent des lieux comme ça un peu désolés, comme la Croix, comme les Causses, comme il y a quelque chose de très dur dans le monde qu'on voit, et en même temps Varda tient absolument à ce que il y ait cette part de documents, de documentaires, oui. comme presque d'entretien, comme ça, oui, hein, qui vient relancer constamment le film, qui est plus un film, lui, sur la fiction d'une errance, d'une marche, de cette jeune Mona.
Mais très documentarité, très ressenti.
Voilà, et c'est ça qui donne ce sentiment de, je trouve, de départ, d'ailleurs, c'est le mélange entre le documentaire et la fiction, dans ce qu'elle peut avoir de plus obsessionnel et de plus radical, quoi. Cette fille, elle se raconte une vie, elle veut vivre comme absolument elle le veut. Ouais, quoi.
Et à l'intérieur même du film, Varda avance parce que dans chaque séquence, il y a un début et une fin qui annoncent visuellement la séquence suivante.
Les travelling.
Oui, c'est ça. Ça, c'est un procédé quand même très très particulier. On est dans l'avance permanente.
C'est aussi les grands films de départ. Oui. C'est chaque fois, c'est une rencontre.
C'est ça.
On est devant un film sur la solitude, mais qui finalement se peuple de une sorte de monde comme ça que Mona met en avant par sa seule présence, une présence très 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 lourde, très muette comme ça. Mais les gens sont obligés de combler ce vide, et c'est ça que le film enregistre. Le trajet, c'est aussi une façon de passer de rencontre en rencontre tout au long du film.
Varda avait eu du mal à le financer, et à l'arrivée, il a eu le Lion d'Or à Venise et Sandrine Bonner le César. Alors, on va faire un truc plus léger maintenant. Hein. On va se souffler un petit peu avec Comme un avion de Bruno Podalydès. Alors, c'est un quinquagénaire désabusé qui fait le bilan de sa vie au cours d'une croisière en kayak dans une région bucolique de la campagne française. Donc, il va peu à peu donc fabriquer ce kayak, et sa femme, incarnée par Sandrine Kiberlin, va l'accompagner. Un extrait sur le jour du départ.
J'ai reçu le devis de la cafetière, c'est bonbon, il vaut mieux en acheter une.
Et tu crois que le matin du décollage, la femme de Lindbergh lui parlait de la cafetière?
Et puis ton kayak, tant que t'y es, t'as qu'à l'appeler comme son avion, là, le Spirit of Saint-Louis.
Ben oui, mais on n'habite pas Saint-Louis. Hein.
Presque. Nous, ça ferait le Spirit of Saint-Cloud. Ça fait un peu con.
Ouais.
Tu sais que ça aussi, c'est bonbon. Hein. Ça peut pas se louer, un kayak?
Et demain, ton stage au yoga, c'est pas bonbon?
Moi, j'ai un prof, c'est un groupe, c'est une expérience collective. Toi, tu t'es pas renseigné pour un club? Tu veux pas profiter de cette expérience avec des gens?
Non, pas de club, la sauce d'amical. Non, j'ai envie d'être seul, tu comprends?
Ah oui, seul, face à toi-même, face aux éléments,
oui,
seul.
Oui, oui, voilà. Et te fous pas de moi. Je suis très touché que tu prennes cette tentative au sérieux.
Mais oui. Et t'as pas peur?
De?
Bah, t'as pas peur, c'est quand même pas rien, quoi. Tu t'aventures tout seul, t'as aucune compétence en kayak, t'es complètement nul en navigation fluviale, en survie primaire.
Oui, c'est vrai.
Et puis, sans but final, parce que tu sais pas jusqu'où tu vas aller, en fait.
Ah bah si, je vais rejoindre la mer.
Ah oui, je vais rejoindre la mer, mais ça, il faudrait 2 mois. T'as pris une semaine de congé, là.
Évidemment.
Alors, comme un avion, Bruno Podalydès, un homme dont les rêves n'ont jamais été accomplis, et ce n'est pas sa femme qui l'en empêche, c'est ça qui est beau. C'est un couple très tendre, et ça va être un voyage très très doux et presque immobile, Antoine Debecq.
Oui, moi ce que j'aime dans le film de Podalydès, c'est que c'est ce personnage joué par Podalydès qui se construit complètement son désir d'ailleurs, de départ, et donc il construit évidemment son kayak à partir de sa passion pour l'aérospatiale. Voilà, quand il s'aperçoit que en fait les avions, c'est des kayaks, quoi. Et donc et à chaque fois c'est comme ça, il construit quelque chose, mais c'est toujours un peu déceptif aussi, c'est-à-dire que c'est toujours un petit peu en dessous de ce qui, voilà, il veut aller à la mer, mais il sait qu'il ira pas à la mer, il veut être seul, à avoir une expérience de l'aventure comme ça, et ce sera quelque chose qui n'arrêtera pas de lui faire rencontrer d'autres personnes. Il sera jamais seul, quoi, oui. En quelque sorte.
Mais c'est un manifeste pour rêver, quand
oui,
même.
Oui, oui, oui. Et là, c'est la nature qui donne ça aussi. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est un très très beau film sur ces rivières de Lyon, du Gâtinais, comme ça.
Absolument.
Il y a quelque chose de très très fluide. Hein, où la nature est comme un liquide comme ça qui enveloppe, qui fait retourner aux origines. Il y a quelque chose de très bucolique et de très panthéiste dans le film.
Il y a un côté conte aussi à Ulysse. Lui, c'est Ulysse, Pénélope qui l'attend, et Circé qui va le séduire,
parce
qui
que
déjà,
oui. La Pénélope est aussi une vraie femme.
Oui,
elle a sa vie.
Et il avance si peu qu'il finit par envoyer des photos à sa femme, des photos qu'il prend sur un livre. Il y a des paysages, il photographie des paysages, voilà. En envoyant à sa femme.
C'est vraiment le côté voyage autour de ma chambre.
Oui,
il y a quelque chose comme ça. Et c'est évidemment les plus belles traversées, les plus grandes aventures, elles se passent tout à côté, comme ça, voir à l'intérieur de sa propre tête. Et c'est
le dehors et dedans, disait
Victor Segalen. Voilà, c'est ça que Podalydès réussit très bien à saisir dans le ton qu'il aime, c'est-à-dire un ton où on est constamment sur le côté mi-figue, mi-raisin. Mmh, ouais. Les personnages comme ça sont toujours à la limite d'être un peu perdus, et en même temps ils sont extrêmement séduisants. Voilà, et Agnès Jaoui dans son rôle de Laetitia là, elle est absolument géniale. C'est quand même aussi à chaque fois des films qui reposent sur des acteurs qui arrive à être autre chose que des acteurs, en fait, qui c'est pas des performances d'acteurs au sens classique du terme, c'est une manière d'incarner une à la fois quelque chose qui ressemble vraiment à la vie, on est devant et en même temps qui nous entraîne vers un monde intérieur très très fort, très voilà, c'est ça qui est réussi, je trouve, dans la manière dont ces acteurs incarnent ce désir de partir, c'est que ils sont jamais sûrs d'y arriver, en fait.
Il y en a une qui veut partir mais qui veut surtout passer le film à rentrer chez elle, c'est la petite Dorothy du Magicien d'Oz. On va terminer avec elle. Tiens, on va écouter tout de suite un extrait.
I can't go the way I came. No, that's true. The only person who might know would be the great and wonderful Wizard of Oz himself. The Wizard of Oz? Is he good or is he wicked? Oh, very good, but very mysterious. He lives in the Emerald City, and that's a long journey from here. Did you bring your broomstick with you? No, I'm afraid I didn't. Well, then, you'll have to walk. The Munchkins will see you safely to the border of Munchkinland. But how do I start for Emerald City? It's always best to start at the beginning, and all you do is follow the yellow brick road.
Antoine de Bec, donc, alors ça, c'est le voyage initiatique.
Oui, c'est un film qu'on a tous vu énormément. Oui. Et à chaque fois que moi je le vois, par exemple avec ma fille, il y a cette évasion qui est la part du rêve, qui est aussi la part de la peur, hein, parce que c'est un film qui fait peur aussi. Il y a une sorcière et c'est cette aventure vers un ailleurs, c'est aussi affronter sa propre peur et par ailleurs, c'est aussi gagner, bien sûr, ce pays un peu enchanté. Oui. Et ce que je trouve très beau, c'est que c'est le cinéma hollywoodien, voilà, les gros moyens, va découvrir sa propre possibilité, son propre rêve à travers l'arrivée de la couleur.
Oui,
c'est ça. C'est un film aussi qui
démarre en noir et blanc,
qui dit une époque. Hein, ouais. On est en 39. Oui. On est avant la guerre. On est dans un moment qui est extrêmement angoissant. Et tout d'un coup, arrive en même temps au cinéma la couleur. C'est-à-dire, il faut imaginer la réaction des spectateurs de 39 qui commencent par un film normal, entre guillemets, et puis qui tout d'un coup, au bout d'un quart d'heure de film, se retrouvent devant la couleur, et puis une couleur en technicolore, une couleur qui pète, une couleur qui est très, comme un monde d'artifice, comme un monde inventé, et qui vont se mettre à rentrer littéralement dans la couleur, comme le fait Dorothy avec ses amis. Donc je trouve que c'est un film qui est extrêmement émouvant pour ça. C'est-à-dire il dit la capacité du cinéma à inventer quelque chose et à rendre à la fois heureux, certes, mais aussi à faire des expériences. Et l'expérience principale que fait Dorothy, c'est celle de surmonter en fait sa propre terreur, puisque le film commence comme ça, par une scène d'ouragan terrible qui la fait être toute seule. Elle perd tout et au fur et à mesure qu'elle rentre dans la couleur, elle va devenir une jeune femme. Elle va découvrir le monde, regagner des amis par ses rencontres, et puis finir par voilà, affronter sa propre terreur, qui est sa, cette sorcière, qui d'ailleurs est jouée par la même actrice que Madame Gulch, qui est la voisine, oui, qui la terrorise au début du film. Donc voilà, c'est ça qui est vraiment magnifique, quoi, je trouve, dans les films du départ, hein, c'est de se finir on part très loin pour se retrouver devant soi-même et sa propre, voilà, ses propres peurs, ses propres angoisses.
Vous restez avec nous, Antoine de Bec, on se retrouve après Céleste Little Runaway avec un petit supplément de Comme un avion.
Bon, allez, prends soin de toi.
Toi aussi.
Et puis si par malheur les choses font que je revienne pas, sache que j'étais très heureux de cette vie avec toi.
Mais arrête, enfin t'es lourd là.
On a eu deux beaux enfants.
On a changé deux fois de lave-vaisselle.
On a repeint trois fois le salon.
Et on a surmonté trois colites néphrétiques.
Et on a acheté une jolie petite voiture d'occasion.
On s'est même pas embrassé là.
Ah non. J'y vais.
Vas-y. Of a life, everybody got something. Staring at the sky, I don't see nothing coming. Thinking of my prayers, maybe they were all misplaced. Good news I could use some. One man revolution. Hallelujah, take me to
fermé, je le disais, plein d'idées de cinéma ailleurs, sur d'autres écrans. On va commencer, Laurent, avec L'Enfer des Anges.
Oui, c'est un film que Antoine de Bec connaît très bien parce que son histoire commence à Cannes en 1939, à ce film de Christian Jacques, et manque de peau, Cannes 1939 n'aura jamais lieu. Mais seulement, Antoine de Bec a réinventé à Orléans, la ville de Jean Zay, l'organisateur du premier festival de Cannes en 2020. Eh bien, le public a pu voir L'Enfer des Anges et avec bonheur, puisque non seulement le film a obtenu le prix du jury, mais aussi le prix du jeune public. Alors c'est un film très intéressant parce que ce sont des enfants livrés à eux-mêmes à peu près dans la zone parisienne du nord de Paris, donc dans ces années 30. Il y a un côté quasiment documentaire du film, avec des moments à la fois dramatiques, tendus. C'est une façon aussi pour Christian Jacques de faire une sorte de trilogie sur la jeunesse et l'enfance, avec Les Disparus de Saint-Agile et L'Assassinat du Père Noël, avec une figure de scénariste Pierre Véry qui rassemble tout ça. C'est peut-être une façon aussi de réhabiliter Christian Jacques. En tous les cas, je pense que il a été trop vilipendé, parce qu'il y a d'autres films comme Le Revenant, comme Fanfan la Tulipe. La belle version DVD Blu-ray qu'on a sous les yeux, c'est chez Pathé. Elle contient la fin alternative, comme très souvent à l'époque, un beau documentaire, des actualités Pathé. Bref, vraiment, si vous ne connaissez pas ce film, il faut dire qu'il est quand même assez rare, ce DVD de chez Pathé et ce Blu-ray de chez Pathé vous permettront permettront de le découvrir et d'en apprécier vraiment toute la saveur.
Un film chinois, La Môme Singe, 1995, Xiao Yen Wang. Là, c'est une fillette de 9 ans pendant la révolution culturelle.
Exactement. Alors, la petite n'a rien d'un singe, hein, mais tout d'un clone féminin, en moins âgé, évidemment, d'Antoine Douanel. C'est la reine des bêtises. Avec sa bouille ronde et ses couettes, elle enchaîne les gaffes. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est le récit, c'est le propre récit de la jeunesse de la réalisatrice chinoise. Et effectivement, cette jeunesse s'est déroulée dans les années 70 en Chine, au moment où les parents déviationnistes sont envoyés au champ et où les enfants, leurs enfants, leurs propres enfants, restent dans les villes livrés à eux-mêmes. Donc ça pourrait être un récit absolument dramatique et la réalisatrice, reste dans un genre qui est le film d'enfant, qui est pas mièvre du tout, mais qui effectivement est peut-être une bonne façon de dire, bon ben la réponse à cette dictature en acte, à ce totalitarisme, c'est peut-être cette jeunesse-là, c'est peut-être cette petite fille-là et sa façon incroyable de faire des gaffes. C'est un beau DVD édité par l'Avant-Scène Cinéma et par ESC, et qui double en plus le film du second film de la réalisatrice et d'un entretien avec elle, s'appelle La Môme Singe.
Sur le site d'Arte, ce doc Stephen King, Le Mal Nécessaire de Julien Dupuis, le célèbre romancier américain le plus célèbre de la littérature populaire, le roi du fantastique et de l'horreur. C'est un portrait en pièces détachées, ses nombreuses interviews drôles et passionnantes reliées entre elles par un habillage tellement élégant. Et sur un commentaire off nourri intelligent, King évoque ses peurs enfantines parce que l'horreur, dit-il, nous ramène à l'enfance. Les enfants croient à tout avant la maladie de la rationalité, mais aussi à la figure du père chez lui qui les a abandonnés, ses méthodes de travail. Et nous y voilà bien sûr les films adaptés de son œuvre, Shining, Kubrick. D'ailleurs, c'était très drôle ce qu'il raconte sur Kubrick, sur sa froideur. Christine Carpenter, Carrie de Palma, Misery ou Stand By Me, Rob Reiner ou Dead Zone de Cronenberg. Dead Zone revu avec tellement de plaisir juste après ce doc sur le site d'Arte. Une collection ciné-voyage, Laurent.
Oui, c'est deux nouveaux volumes dans cette collection qu'on aime beaucoup, ciné-voyage, édité par Espace et Cine, tout ça au pluriel. Alors, comme son nom l'indique, ciné-voyage, ça prend un lieu et ça montre comment le cinéma l'a traité. Nouveau volume avec Tanger, mise en scène, et rédigé par Florence Leroy, avec en couverture le très beau film d'André Téchiné, Les temps qui changent de Pardieu Deneuve. Et effectivement, elle nous rappelle que la bandera de Duvivier, Le spectre du Bond de 007, Morocco de Von Sternberg, Only Lovers Left Alive de Jarmusch et bien d'autres encore ont été tournés à Tanger, et donc ça en fait vraiment une ville de cinéma. L'intérêt aussi de cette petite collection, c'est qu'elle ne néglige pas de nous montrer des cartes, donc on voit où sont les lieux dans la ville de ces films-là, et c'est vraiment tout à fait intéressant, et ça donne envie de partir demain matin à Tanger, ce qui est impossible de faire en ce moment. Et puis il y a aussi un autre volume sur, tenez-vous bien, le Rio Grande et la frontière USA-Mexique, spécial dédicace à le bientôt peut-être futur ex-président des États-Unis. C'est un livre de Clément Brault et Romain Wex. Là aussi, nombre de westerns, mais pas seulement, ont traité de ce sujet et de cette frontière entre, effectivement, les États-Unis et le Mexique.
Et enfin, un très très beau coffret que nous allons offrir à Antoine Debecq.
Oui.
François Truffaut, La Passion Cinéma.
Vous avez 16 heures devant vous, Antoine Debecq. Eh bien, il vous le faudra, parce que c'est 16 heures de programme avec 8 films. La mariée était en noir, La sirène du Mississippi, L'enfant sauvage, Une belle fille comme moi, L'histoire d'Adèle Haenel, L'argent de poche, L'homme qui aimait les femmes, La chambre verte, plus un livre supervisé par Olivier Père qui nous donne le regard de certains cinéastes sur ces films. Assayas, Donzelli, Amalric, Lovski, Hansen Love, etc. Plus des entretiens avec Denner, Lafont, Moreau à l'époque. Et un court-métrage, je ne sais pas si vous l'avez vu, Les Quatre Coups, avec Truffaut dans le rôle principal de l'assassin. Ça dure 3 minutes. C'est un inédit absolu. C'est une merveille de ce coffret édité par Arte. Et il y a un entretien avec Truffaut qui est extraordinaire, où pour La Chambre Verte, il explique qu'il va terminer ses films de bougie. Les films de bougie, il explique qu'on ne peut pas ouvrir violemment une porte quand on tient une bougie dans un film à costume. Et il arrête avec ça.
Voilà. Moi, j'aime beaucoup ce que dit Noémie Lvovsky sur lui. On parle beaucoup de sa délicatesse. On parle moins de sa folie et pas assez de sa mise en scène. Sa complexité est aussi grande que son désir de clarté. C'est plutôt pas mal résumé. Pour
c'est tout à fait juste en plus. Ouais, merci beaucoup.
C'est touché, le cadeau de Noël.
Voilà. Ouais, c'est super. Et c'est vrai que ça, je vais me replonger.
Vous n'avez pas assez de Truffaut après avoir
non,
écrit.
Non, c'est
ça.
Vrai que. Mais c'est ce que dit Noémie Lvovsky, c'est-à-dire que plus on voit des Truffauts, plus on voit le côté un peu sauvage de, oui. de Truffaut. Moi, j'aime Exactement. Bien le côté secret, le côté et donc la mise en scène, en fait. Ouais.
Alors, sinon, on aurait bien aimé parler de ce livre qui devait sortir en avril et qui va sortir en mars prochain, signé de Vanton Weck. C'est Le cinéma est mort. Vive le cinéma. En fait, vous avez noté toutes les époques où le cinéma a été menacé de mort, à commencer par les frères Lumière.
Absolument. Le cinéma est une invention sans avenir.
Oui.
donc oui, c'est un livre où c'est un livre d'histoire du cinéma où je me replonge sur une dizaine de moments comme ça où on a dit le cinéma va mourir.
Ouais.
Et c'est évidemment une sorte de lieu commun. Hein. Le cinéma va mourir aujourd'hui. Mmh. Tout le monde dit ça. Mmh. Donc je finis sur aujourd'hui et notamment sur le confinement. Hein. Voilà, le cinéma s'est arrêté, c'est vrai.
Ouais.
C'est... Mais pour essayer de montrer comment, quand on tient ce discours, précisément, on est dans l'obligation, d'une certaine manière, de le réinventer. Mmh. C'est-à-dire que c'est pour ça que ce titre est double. Le cinéma est mort. Vive le cinéma. Mon idée, c'est de montrer combien les cinéastes qui ont partagé, par exemple Chaplin, au moment de l'arrivée du parlant, cette idée que son art va mourir, ont été complètement engagés dans une forme de renouveau formel. Il faut absolument que on puisse conjurer cette malédiction du cinéma.
Merci beaucoup Antoine Debecq. On en reparlera donc en mars prochain quand il sortira ce livre. Merci. Générique de fin avec vous.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma. Il y a des réalisateurs et des acteurs. Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs. Les prises de vue sont des prises de son. Georges Delerue a écrit les musiques du générique. Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez. Christophe Magère s'est occupé de la préparation. C'est une émission réalisée par Laurent Thomas et Claire Destacan. Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas. Et moi, Antoine Debecq, j'y étais.